Alors, pour ce qui est des pneus, ben, il m'est arrivé de crever, mais je répare sur place. Je mets des mèches, tac, ça repart, on gonfle, puis le gonfleur dans la voiture. Puis ça peut arriver n'importe où et n'importe quand, en pleine nuit ou aller chercher un dépanneur. C'est mieux que de remonter le cric, d'enlever la roue, de la changer, de mettre l'autre à la place. C'est direct. On enlève la pointe, tac, et puis on met une mèche. Bon, il faut savoir le faire, hein, voilà. En tout cas, oui, gloire à Dieu. Ce qu'a dit Emmanuel, là, avant de me laisser la place, c'est très important. J'avais, en quelque sorte, une pensée qui allait dans le sens où elle a été apportée par Emmanuel. C'était de veiller sur l'état de son cœur. Parce que c'est ça le plus important. Pour avoir une belle, belle apparence et avoir un cœur, mais alors, écoutez-moi, fracassé. Un cœur, dans une détresse très, très, très profonde et ne plus savoir où on en est. Ne plus savoir comment faire pour s'en sortir, pour avancer. Alors que Dieu, lui, c'est la solution. Et lui veut veiller sur nous. Mais si notre cœur est fermé, comment pourra-t-il mettre, lui, l'encouragement qu'il veut déposer en nous? Amen. On va lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, au verset 1er. Alors, c'est un texte que vous devez connaître. Vous, lecteur de la Bible, quand je dis lecteur, c'est lecteur assidu de la Bible, parce que le potier, c'est quelque chose que nous connaissons ici en Provence. Hein. Amen. Alors, le Jérémie 18, verset 1er, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette maison sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Nous savons que Jérémie a eu un ministère particulier. On le surnomme d'ailleurs le prophète qui pleure. Un jour, à une convention en Montauban, convention nationale à Montauban, ou oui, régionale, je crois, plutôt de région sud, la question a été posée par le préposé à la prédication. C'était un Canadien, c'est toujours un Canadien d'ailleurs, Marc Lecomte, pour ceux qui le connaissent. Et la question qu'il a posée, il a dit, qui a envie du ministère de Jérémie? Personne ne levait la main. Vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous avez envie de pleurer constamment? Non. Et Jérémie, il n'avait pas envie, mais pourtant, eh bien, c'était ce que Dieu lui avait demandé de faire, tout simplement, de parler au peuple. Parle-leur, dis-leur ce que j'ai à te dire, ou à leur dire, pardon, ce que je dis à toi, tu leur diras. Ils te feront la guerre. Ils ne t'écouteront pas, ils seront contre toi, ils te feront du mal. Waouh, quel ministère! Mais c'était pourtant le ministère qui était destiné à cet homme de Dieu. Alors néanmoins, Jérémie a vécu des choses fantastiques, formidables avec Dieu. Des choses que, eh bien, qui sont extraordinaires, parce que Dieu est extraordinaire. C'est à lui que Dieu demanda d'aller exhorter le peuple d'Israël, également leur dire d'accepter la déportation, d'accepter d'aller en esclavage. Facile à dire? Eh non. Alors pour cela, et à cause de cela, bien sûr, plusieurs fois, lui-même a été jeté dans une citerne. Comme je disais, on lui a fait du mal, on a voulu le faire périr, mais certains s'y sont opposés au bon moment. En tout cas, beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà parlé du potier en s'inspirant de ce texte que nous avons lu ce matin. Paul en a parlé et tant d'autres également. Alors, ce que nous pouvons déjà dire, c'est que ce n'est pas Jérémie qui a décidé d'aller chez le potier. Ce n'est pas lui. Nous l'avons lu ensemble. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a, quelque part, interpellé en lui disant, « Allez, tu vas descendre dans la maison du potier. » Et il souligne quelque chose de particulier. « Là, je te ferai entendre ma voix. » Si vous préférez, « Là, je te parlerai. » Là, tu seras dans de bonnes dispositions pour entendre ce que j'ai à te dire. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la maison du potier ? C'est un endroit simple, sale, un atelier, poussiéreux, non attrayant. En tout cas, c'est là que Dieu avait quelque chose à dire à Jérémie. Vous voyez ? Nous, on s'attend à ce que, par exemple, un ange descend du ciel et puis nous parle directement. On aimerait que, par exemple, le pasteur vienne vers nous et puis nous dise. Non. Dieu sait quand il doit nous parler. Quand tout est conforme, Dieu sait tout cela. Alors, quand je dis que Dieu veut nous parler, c'est d'abord parce que il a des choses très importantes à nous dire. Mais quand je dis que nous, on aimerait qu'il nous parle aussi, beaucoup attendent, je dirais, des choses de la part de Dieu, mais ils ne peuvent pas les avoir ou les entendre ou les comprendre ou les vivre tout simplement parce que quelque part, ils ne sont pas passés par ce lieu, la maison du potier. Ils n'ont pas compris ce qui se trouve et ce qui s'y passe. Cette révélation que Dieu donne justement dans la maison du potier. Vous avez écouté jusqu'à présent certainement des centaines ou des milliers de messages, de prédications. Vous avez lu des milliers de versets de l'Écriture. Il était question de conseils également. Certainement que vous avez entendu et vous avez écouté des conseils. Mais je crois qu'il vous manque la compréhension de la révélation de la maison du potier. C'est très important. Peut-être vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus ? Mais vous allez comprendre. Dieu pouvait parler à Jérémie partout ailleurs. Il l'a fait sous la forme d'un feu, bien sûr. Il l'a fait également dans le vent, la violence, etc. Mais il y a la maison du potier. Et s'il y a la maison du potier, c'est que, il y a quelque chose de particulier. D'ailleurs, Jérémie l'avait compris, c'est le Seigneur qui me demande d'aller dans la maison du potier. Je vais y aller. C'est-à-dire qu'il l'accepte simplement sans rechigner, sans même poser de questions. Mais pourquoi dans ce lieu ? Non, du tout. Et vous savez, quelquefois, notre problème à nous, c'est ça. Ce n'est pas dans ce lieu que tu vas pouvoir me parler. Ce n'est pas maintenant. Est-ce que Dieu est le maître des temps et des moments ? Est-ce qu'il est le maître des circonstances ? Bien sûr. Alors ainsi, quand Jérémie s'exécute, qu'il y va, qu'il y arrive, la première chose qu'il voit, c'est l'image d'un Dieu qui agit, d'un Dieu agissant. Ce n'est pas celui d'un potier ayant terminé son œuvre, mais un potier qui est au travail, qui est en train d'accomplir un projet à partir d'une masse informe. Là où vous allez, là où Dieu veut vous conduire, il arrivera, il est certainement arrivé que vous n'avez pas compris sur le coup ou que vous n'allez pas comprendre. Déjà, ce que vous allez voir sur le moment. Mais sachez une chose, c'est que Dieu travaille. On va voir un peu les circonstances, peu importe les circonstances. En tout cas, Dieu est un Dieu qui travaille. À l'instant même, j'en suis convaincu, là où vous êtes assis sur votre chaise, Dieu est en train de travailler dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Dieu est au travail. Le potier travaille. C'est ce que Dieu voulait que Jérémie comprenne en premier. Jérémie, je suis en train de travailler dans ton cœur, dans ton âme. Je suis en train de te préparer. Je suis en train de t'embellir, je suis en train de t'enrichir. Le potier, il travaille pour donner une forme à l'argile, donc ses mains s'activent, tout comme Dieu travaille l'argile que je suis, l'argile que tu es, l'argile que nous sommes. Et c'est vrai que Là, il faut que rien dans notre vie nous fasse croire que Dieu ne nous comprend pas, que Dieu ne sait pas, que Dieu dort, que Dieu ne fait rien, qu'il n'agit pas. Même quand on a des situations difficiles et qu'on aurait pu tendance à croire que Dieu ne pourra rien, détrompons-nous. Dieu peut tout. Il entend tout, il sait tout. Vous croyez qu'il ne s'aperçoit pas quand vous êtes dans la souffrance? Dites-moi. Bien sûr qu'il vous voit. Bien sûr qu'il vous aperçoit, merci. Bien sûr également qu'il est là en train de faire quelque chose. S'il permet la souffrance, c'est qu'il a quelque chose à nous enseigner. Allez parler à quelqu'un qui est dans la souffrance, si vous n'avez jamais souffert. Mais allez parler à quelqu'un de la souffrance quand il souffre et que vous, vous êtes passé par la souffrance. Là, vous pouvez lui dire « je te comprends ». Sinon, moi, j'ai toujours évité. Quand une situation que je n'avais pas vécue arrivait à quelqu'un, je disais toujours, oui, Dieu, lui, il te comprend. Moi, je ne sais pas ce que tu vis. Mais Dieu, lui, il te comprend parce qu'il sait. Amen. Et c'est ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Amen. Alors, par contre, Dieu sait tout ce qui peut nous arriver. Et ce qui est important, c'est que lui, il n'est jamais dépassé. Il sait ce qui nous arrive. Il le permet. Amen. Parce que rien ne nous arrive sans que Dieu ne le permette. Donc s'il le permet, c'est qu'il a quelque chose à faire en nous. C'est qu'il a quelque chose à nous montrer. Parfois, tout autour de nous, les choses semblent ne pas marcher. Nous prions. On dirait que le ciel est dérèglé, qu'il est fermé. Pas de réponse. Le travail... Ça ne marche pas, les relations vont de pire en mal, ça ne marche pas. Alors sachez qu'au travers de toutes ces choses, Dieu continue son œuvre. Qu'on ne le saisisse ou qu'on ne le saisisse pas, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, Dieu, lui, travaille. Son œuvre est en route. Amen. Étant entre ses mains, rien ne peut nous arriver sans sa volonté. Et si je ne parle pas des païens, des inconvertis, que du reste, eux, ne sont pas entre les mains du potier, puisqu'ils les refusent, puisqu'ils les repoussent. Mais je parle tout simplement à des chrétiens. Hein. Nous avons été accueillis par Dieu dès notre conversion, dès que notre cœur a été bouleversé, que nous avons été sincères, que nous avons dit « Oh Dieu, pardonne-moi ». Dieu nous a pardonné. Dieu devient mon maître. Nous avons chanté. Eh bien, il devient notre maître. Règne sur mon cœur. Mais il règne sur mon cœur. C'est pourquoi le cœur doit être ouvert et nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Alors, face à notre destinée, il faut comprendre la révélation de la maison du potier. Et c'est au travers de choses par... quelquefois de personnes même banales, dans le quotidien de la vie aussi, hein, au sein de nos activités quotidiennes, que Dieu peut aussi nous enseigner. Il nous enseigne par la lecture de la parole de Dieu, il nous enseigne au travers du Saint-Esprit, nous avons eu ses dons spirituels, il nous enseigne au travers de la prédication de la parole de Dieu, mais il peut nous enseigner également dans le quotidien de la vie. Eh oui! Il peut nous enseigner selon ses désirs, selon sa volonté à nous diriger dans une direction, à accepter quelque chose, à repousser autre chose. Il est Dieu. Alors, Jérémie n'est arrivé à comprendre cela que quand le potier était en train de travailler. Le potier ne travaille pas comme le fait un architecte, avec une maquette, avec des plans bien dessinés, avec des côtes de partout, mais... Le potier, lui, tout est dans sa tête. Vous voyez ? Tout est dans sa tête. Si bien qu'au début, personne ne peut comprendre où il veut en venir. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'arrondir, il est en train de tirer vers l'eau, on ne sait pas. Hein, non, mais quand on est profane dans ce domaine particulier de la poterie, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette masse ? Pourquoi il a pris cette quantité ? Eh oui ! Alors, le projet que Dieu a pour vous, eh bien, sachez qu'il ne l'a dévoilé à personne. Tu connais le projet pour chacun, Emmanuel? Moi non plus, hein. Ah ouais. Donc, il ne l'a dévoilé à personne. Pourquoi? D'abord, il y a un grand respect de ce que nous sommes. De ce que nous sommes en devenir également. Ça, c'est son projet. Mais il a tout cela également dans sa tête. Il travaille. Ce qu'il fait, au point où nous en sommes aujourd'hui, n'a pas de forme. Peut-être. Je vais dans cette direction, mais pourquoi? Je pense qu'il y a bien dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, des points d'interrogation, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ça ne vous est pas arrivé de dire pourquoi moi? Et pourquoi encore moi? Il y en a d'autres, hein? Seigneur, si tu pouvais jeter un peu le regard ailleurs. Non, mais il sait. Hein? Alors, lui, il sait ce que nous allons devenir. Personne ne peut vous définir exactement. Il n'y a que le divin potier. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Seigneur. Alors, au commencement, c'était juste de l'argile sur laquelle quiconque pouvait marcher. L'argile, c'est dans la terre, on la trouve. Hein? Mais voilà qu'entre les mains du potier, l'argile commence à prendre forme. Et là, sachez-le, elle a déjà acquis une certaine valeur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. N'oublie pas qu'il a livré sa vie en sacrifice pour toi. Il y a le prix du sang de l'agneau, du sang d'un innocent, du sang du seul juste que la terre ait connu. Oui, tu as une certaine valeur. Alors, ce qui est dommage, c'est que quelquefois, par orgueil ou par suffisance, eh bien, à cause peut-être de situations duquel on est sorti vainqueur, parce qu'on a été quelqu'un, vous voyez, ou parce qu'on a des biens, de la connaissance, on oublie une chose, c'est que nous ne sommes que de l'argile. Et pour devenir un vase d'honneur, propre et utile à l'œuvre de Dieu, nous allons en parler tout à l'heure, eh bien, nous avons besoin que le potier, lui, nous forme et nous façonne. Ce n'est pas d'un coup que le potier, il fait le vase qu'il veut. Il y a du travail. Il mouille ses mains, il revient. Hein, des fois, ça ne passe pas comme ça devrait se passer. On refait une boule et puis on recommence. Donc, vous voyez un petit peu, il y a ce besoin d'une manière particulière de se laisser travailler par le potier. Quand je regarde dans Jean 2, la Bible nous parle des noces de Cana. Vous connaissez les noces de Cana. En y associant, vous allez voir le nom de Marie à celui de Jésus. Et le texte nous montre socialement un moment, particulier, qui marque quelque part la gloire de la vie de quelqu'un. Malgré, Marie était fière d'avoir son fils là. Hein. Elle était aux cuisines, au fait. Hein. Lui, il était parmi les invités. Mais elle est fière. Dire c'est mon fils. Elle est fière de ce que Jésus va transformer l'eau en vin. Elle est fière de ce que on va dire, mais oh, il est extraordinaire. C'est mon fils. Alors, la gloire, parce que c'est un moment de gloire pour elle, signifie en hébreu poids lourd. P-O-I-D, hein, le poids. Poids lourd. Marie a senti la gloire du fait qu'elle porta Jésus en elle. C'est moi qui l'ai porté. Vous comprenez? Alors, si vous portez Jésus en vous, vous aurez la gloire de Dieu. Et même si vous étiez léger, vous deviendrez poids lourd. Vous dites pas Amen. Vous n'avez pas envie de voir la gloire de Dieu descendre sur vous? Vous n'avez pas envie de ça? Bien sûr qu'on a envie. Amen. Alors, soyez des poids lourds. Dans ce domaine-là. Le potier était donc là. Il était enfermé dans son atelier, il travaillait. Et la Bible dit que le vase qu'il faisait n'a pas pris la forme qu'il voulait. Pouvons-nous échouer entre les mains du Seigneur? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le Seigneur, il ne peut pas se tromper. Lui, il ne se trompe pas. Hein. Moi, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi pour porter la parole? Il y en a d'autres, il est super là-bas, le frère. Oui, mais c'était comme ça. Et ça a traîné pendant un moment, hein, je peux vous le dire. Parce que c'est une lourde responsabilité. Mais en tout cas, quand je dis, pouvons-nous nous tromper en étant dans les mains du Seigneur? Bien sûr que nous pouvons nous tromper. Bien sûr que, étant chrétien, enfant de Dieu, eh bien, il peut nous arriver de commettre des fautes, de faire des erreurs, de faire de mauvaises alliances, de nous tromper. Oui, oui. Alors, ce qui est important, d'abord, l'échec va nous amener à réfléchir, à nous remettre en question, à nous faire redevenir tout petits. Parce que quelquefois, on a tellement pris de... Excusez-moi de... Hein? Et nous avons une attitude maintenant parce que je suis quelqu'un, voyez. J'ai eu quelques victoires dans le domaine de la foi. J'ai vu mes prières eh bien, être entendues par le Seigneur et j'ai eu des réponses formidables. Alors, quelquefois, le Seigneur permet que nous nous trompions. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'échec. L'échec du vase. Il n'a pas réussi. Mais ce qui est important, c'est la persévérance du potier. Vous avez vu ? Il reprend le travail. Il refait une boule, il la remet sur le tour et il la prépare à nouveau pour qu'elle puisse, entre ses mains, devenir quelque chose. Et le problème, c'est que beaucoup croient que c'est fini pour eux parce qu'il y a eu un échec. Parce que, eh bien, peut-être ils n'ont pas eu confiance dans ce que leur disait le Seigneur et ils ont voulu, eh bien, arriver par eux-mêmes. Peut-être également, eh bien, ils ont écouté de mauvais conseils. Et ils se sont trompés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un peu moins de prestance. On est un peu plus effacé, j'allais dire, nous, pasteurs, on voit. Quand on est au premier rang, c'est que tout va bien. Puis qu'est-ce qu'on se met au fond? C'est que ça va plus, ça, le pasteur le sait. Tiens, il a l'habitude d'être devant, il est derrière. Ah, ah. Alors pour nous, c'est des signes, hein, bien sûr. On fait attention, on regarde et on va un petit peu plus près. Puis, ouais. Bon, en tout cas, on s'assoit comme résigné, on n'espère plus rien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Dieu, lui, le divin potier, n'en a pas fini avec nous. Il n'en a pas fini avec nous. Lui, il veut aller jusqu'au bout de son œuvre. Et même si nous, on n'a plus d'ambition, lui, il a toujours l'ambition de réussir avec nous. Parce que Dieu n'est jamais dans l'échec. Amen. Nous, de pouvoir avoir cette position et de résigner, je suis mauvais. Ok, ça, Dieu le sait, nous le savons aussi, hein, nous-mêmes, que nous sommes mauvais. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu, lui, il a toujours l'ambition de nous faire réussir. Parce que Dieu ne veut pas que ça se termine sur un échec. Il veut réussir avec nous. Ça, c'est l'ambition de Dieu. Dieu étant souverain, il se peut pour cela que même les choses mauvaises deviennent bonnes. Ça, c'est pas possible que ça vienne de Dieu. Et comment tu le sais? C'est pas possible que Dieu, eh bien, soit dans la souffrance. Comment tu le sais? D'abord, Jésus a souffert. Non? Et quand nous désobéissons, quand nous ne comprenons pas, croyez-vous que Dieu souffre ou pas? Quand il veut nous faire comprendre que nous faisons le contraire. Mais il souffre. Il va permettre des situations. Il veut que nous sortions du chemin de traverse que nous avons pris. Sachez également que Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et même les malédictions ou les paroles mauvaises des gens prononcées sur nous peuvent être transformées en une bénédiction extraordinaire. C'est pas réjouissant? Je pense que ce que tu vis en ce moment, c'est quelque chose de difficile. Mais Dieu te dit ce matin que même ce que tu vois comme étant difficile, insoluble, moi, j'ai la solution, dit l'Éternel. Moi, je te ferai sortir de là. Tu en sortiras vainqueur alors que tout le monde t'a condamné, alors que tout le monde t'a rejeté, que tu es, allez, un échec pitoyable pour eux. Dieu va faire de toi un vainqueur. Amen. C'est important de savoir ces choses. La souveraineté de Dieu, quelquefois, elle est troublante. Quand on regarde un petit peu dans l'Ancien Testament, il peut utiliser même une personne qui vit dans le péché. Et oui, c'est ce qu'il va faire un jour où il a voulu détrôner un roi et ramener son peuple. Et pour cela, il va chercher quelqu'un pour l'y aider. Et qui va trouver ? Un Perse. Cyrus. Il n'était pas ami du peuple de Dieu. Eh bien, Dieu dit, c'est mon serviteur. Et quelquefois, Dieu peut utiliser quelqu'un qui est votre ennemi pour vous amener tout simplement à changer. C'est-à-dire que ça va lui permettre de travailler en vous. Cette adversité dont vous allez être les victimes, excusez-moi le mot victime, mais Dieu peut s'en servir pour que vous soyez modelés, transformés. Que vous appreniez comme cela la patience. Vous allez devoir apprendre à encaisser des coups. Et surtout ne pas succomber à la tentation de la vengeance, par exemple. Ne pas succomber au désir quelque part de tout laisser tomber, de tourner le dos à Dieu, à l'Église, au Seigneur, mais surtout de rester dans sa présence. Surtout de rester à son écoute. Vous comprenez ce que je dis ? Dieu peut se servir de quelqu'un que vous ne supportez pas pour vous modeler, vous transformer, faire de vous un vase d'honneur, pour que sa gloire descende. Amen. Que vous soyez un poids lourd. Amen. Parce que c'est ça qui est important. À cause de sa souveraineté, Dieu peut pardonner à un peuple qui a péché, mais alors lourdement, profondément. C'est important. Nous, humainement parlant, on dit, mais lui, jamais. Lui, jamais. Vous auriez misé sur Saul de Tarse. Souvenons-nous ce qu'il est devenu, l'apôtre Paul, celui qui nous a laissé des lettres extraordinaires. Alléluia, un enseignement fabuleux. Mais il a été façonné, modelé. Par là, pour lui, il est passé par l'aveuglement. Il n'y voyait plus. Lui qui toujours s'en sortait, lui qui, quelque part, avait un rôle important, même s'il était petit de taille, il était fort, il était costaud, il avait du bagou, il avait de la connaissance. Eh bien, il a dû être accompagné par des hommes qui l'ont conduit jusqu'à Damas. Voyez ? Alors oui, il peut pardonner. Dieu peut pardonner à une nation, à un peuple, à un homme. Il y a des choses que l'homme ne peut comprendre, qu'il ne comprendra jamais ou qu'il ne comprendra, mais bien longtemps après. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je suis entre les mains du potier, qui lui ne se fatigue ni ne se repose. Il est à l'œuvre, il travaille. Même quand je n'en ai pas conscience, il travaille. Même quand tout semble aller dans le mauvais sens, à l'opposé de mes désirs, Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre. Et quelquefois, si ça me fait mal dans certaines situations, c'est parce qu'il est en train de me dire, voilà, là, il faut que tu rectifies. Je suis en train de te modeler, de te façonner. Amen. Notez également que ce que vous avez perdu, alors que vous êtes dans le plan de Dieu, ça fait mal, bien sûr. Mais Dieu veut qu'on ait plus d'attachement à lui qu'aux choses que nous avons. Eh bien, néanmoins, vous allez les récupérer. Parce que notre Dieu est le Dieu de la récupération. Alléluia! Combien de fois il t'a récupéré jusqu'à présent? Tiens, un paquet de fois, hein? Eh oui. C'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu de la réparation. C'est le Dieu de la repentance. C'est le Dieu de la réconciliation. C'est le Dieu de la recréation. Alléluia! Ça, c'est notre Dieu. En tout cas, la face de Dieu, c'est l'insigne de son amour. C'est l'insigne de sa bonté, de sa loyauté, de sa patience. La force de notre Dieu, elle est bien supérieure à la nôtre. Et c'est vrai que rien n'est comparable à la qualité de son amour envers nous. Amen. Il nous aime, mais d'un amour extraordinaire, immense. Et que dire également des soins qu'il nous prodigue, je dirais, constamment, alors que nous n'avons même pas conscience de cela. Les soins de Dieu sont là. Oh, il peut même utiliser quelqu'un pour nous apporter des soins. Amen. Quelqu'un à qui nous n'avons même pas pensé. Mais finalement, il m'aime lui aussi. Alléluia. Ça nous fait redescendre un petit peu. En tout cas, notre Dieu est persévérant. Il ne se fatigue pas, il ne s'arrête pas en chemin. Il est souverain. Il va aller jusqu'au bout. Oh, c'est pas avoir de l'ambition, ça ? Ayons la même ambition. En tout cas, quand le potier travaille, il a une main à l'intérieur et une main à l'extérieur du vase. Les souffrances que vous pouvez rencontrer, c'est pour vous apprendre. Vous apprendre à pardonner, aimer, à supporter. Amen. Vous sentez la main du potier à l'intérieur, là, vos sentiments en prennent un coup. Mais voilà, le Seigneur est en train de travailler. Il va travailler aussi à l'extérieur. Amen. Pour nous rendre de plus en plus beaux. Et puis quelqu'un vous dira un jour en passant, tu es différent des autres. Je ne sais pas ce qu'il y a chez toi, mais il y a quelque chose de particulier. On a envie de rester dans ta présence. C'est le travail du potier. On travaille à l'intérieur, puis à l'extérieur, ça jaillit, ça se voit, ça se sent. Ah, quel bon parfum, le parfum de Christ. Amen. En tout cas, il n'a dévoilé ses projets sur vous à personne, ça je le disais au début. Et comme personne ne sait ce que vous serez, eh bien vous pouvez sentir l'incompréhension des autres. Ça peut vous arriver. Je passe par ça. Au lieu de m'aider, de m'encourager, il me laisse seul. Quand je dis qu'il veut nous apprendre en travaillant à l'intérieur de nous à pardonner, ça peut être ça aussi. Hein. Donc dans ce qui peut nous arriver, nous atteindre, il peut y avoir des choses frustrantes, usantes, mais Dieu sait. Hein, sachez que vous êtes un vase en devenir, que le divin potier est en train de vous former, de vous façonner, pour que vous soyez tout simplement un vase propre à toute bonne œuvre. Un vase utile. Hein. Il vous prépare pour l'accomplissement de l'œuvre qu'il a préparée. Il veut que nous soyons des vases d'honneur propres à toute bonne œuvre, des vases non pas d'un usage vil, mais d'un usage utile. Amen. Alors, nous avons un problème, c'est que nous sommes, quand nous ne comprenons pas, nous sommes vite sur la réserve. Vite sur la défense. Allez, vous voyez, les mains sont comme ça. Hop, je me protège. S'il vous plaît, levez vous-même. Levez vous-même et abandonnez-vous tout simplement dans le calme entre les mains du Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais comme je suis entre tes mains, toi tu es le potier, tu es en train de me façonner parce que je suis en devenir, je vais me laisser faire, Seigneur. Je vais apprendre à te laisser agir. Je vais apprendre à ne plus t'opposer de résistance. Je vais accepter dans la soumission. Pas facile la soumission. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Eh oui. Je veux avoir, Seigneur, un comportement tout autre. Je veux, quelque part, être soumis de cœur. Je veux laisser les circonstances, tes circonstances à toi, me conduire là où tu veux que j'aille. Et je sais que ce sera dans la bonne direction, même si je ne comprends pas. Même si ce que je vis en ce moment, je ne le comprends pas, je n'en vois pas l'utilité. Seigneur, je veux te laisser faire. Vous comprenez ? C'est ça, être un vase, une masse d'argile et un vase en devenir dans les mains du potier. Hein. Alors, si vous êtes arrivé de perdre quelque chose dans la vie, que vous pensiez qui pour vous était important, c'est peut-être parce que vous étiez soit entre vos propres mains, conduisant votre destinée, ou alors en voulant tout diriger, tout conduire, soit également parce que, quelque part, l'ennemi avait réussi quelque chose. Il vous a un peu manipulé. Vous avez été peut-être un temps un jouet entre ses mains. Maintenant, dites-vous une chose, c'est que vous êtes entre les mains du divin potier. Amen. Donc, vous allez récupérer des choses. Dieu n'est pas là pour nous appauvrir. Il est là pour nous enrichir. Est-ce que vous avez perdu un chemin ? Dieu sait que ça a de la valeur pour vous, mais pour lui aussi. Alors, ce que, justement, vous allez récupérer, c'est ce que Dieu, quelque part, ça lui plaît. Allez, tu en as besoin, je le sais. Si pendant un temps, tu en as été privé, tu as compris pourquoi maintenant. Allez, je te le donne. Tu vas pouvoir le retrouver. Vous savez, vous ne pas s'inquiéter. Hein. Avec le Seigneur, on devient toujours plus riche. Amen. On est appauvri dans les choses qui seraient pour nous, d'abord pour les futilités, pour les choses qui seraient pour nous une perte. Là, on est appauvri. Alléluia. Le vigneron, hein, t'en parlais la dernière fois, il coupe, il émonde, afin que nous soyons un beau fruit, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui, en dépit de leur crainte, de leur fidélité à Dieu, ne comprennent pas ce qui peut leur arriver, il y a cette assurance que Dieu voit tout. Amen. Qu'il entend tout. Qu'il sait tout. Qu'il n'est jamais dépassé par quoi que ce soit et qu'il est capable de tout inverser en un instant pour faire triompher son nom. C'est l'Éternel. C'est le roi des rois. Il y a Charles III en ce moment qui est en train d'accéder au trône. Mais un jour, Charles III disparaîtra, comme Élisabeth II disparut. Mais l'Éternel, lui, il demeure. Amen. Il est éternel. Alors, apprenons à nous humilier sous sa puissante main, afin que lui, il nous élève au temps convenable. Sachons aussi que Dieu peut nous apprendre à nous et nous instruire, même à partir de nos fautes, de nos erreurs, de nos échecs. Amen. Donc ne restez pas. Ne restez pas comme assis au bord du chemin. Je n'avais pas vu que ça avait remonté. Voilà. N'oublions pas qu'également, nous ne sommes que poussière. Amen. Et quand sans le souffle divin du potier en nous, nous n'avons aucune valeur. Nous ne valons rien. Nous sommes l'argile et c'est entre les mains du potier que nous avons de la valeur. Et non à cause de nos biens, de nos capacités, de nos titres, qu'ils soient pimpants ou pas. En tout cas, nous ne valons rien sans lui. Amen. Notre Dieu est en train d'agir. Est-ce que vous le croyez? C'est une question que je vous pose. Vous voulez répondre? Est-ce qu'il travaille dans ta vie, mon frère, ma sœur? Je vois à ce côté, mais aussi, il y en a. Hein, est-ce qu'il travaille dans ta vie, là, au centre? Amen. Bienheureux qu'il travaille. Comme je disais, il n'en a pas fini avec toi. Avec moi non plus, hein, bien sûr. Mais permets-lui de faire son œuvre dans ta vie. Si jusqu'à présent, tu étais fermé, allez, ouvre-toi. Hein? Ne repousse pas sa main. Laisse son esprit agir en profondeur dans ton être. Il est à l'œuvre. N'aie aucune crainte dans ton cœur. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Lui, il ne marche pas à tâtons. Vous avez vu? Le potier, lui, sait ce qu'il va faire. Tout est dans sa tête. Amen. Et puis également, c'est à cause de sa souveraineté. On va le voir dans le livre de Malachie. Malachie ou Malachie? Malachie, parce que Malachie ne profite jamais. Hein, enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Il a haï Ésaü. Il a aimé Jacob. Verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » C'est-à-dire qu'il les a aimés tous les deux. Et vous dites, « En quoi nous as-tu aimés ?» Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob. » Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Un gars attaché de l'importance à sa position, à celle que Dieu voulait pour lui. L'autre était prêt pour un plat de lentilles. Hein, il l'a fait d'ailleurs, de vendre son droit d'aînesse. Il aurait légué sa fortune pour un plat de lentilles. C'est-à-dire que c'était l'appétit charnel lui-même. Mais l'autre avait soif, il avait faim, tout simplement, des valeurs de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est important. Il fait pleuvoir, sur le bon et sur le méchant. Et qui peut lui faire des reproches ? À part les paysans. Il pleut quand il ne faut pas, il fait soleil quand il faudrait qu'il pleuve. Il fait froid, il gèle, il y a de la grêle. Qui peut lui dicter sa conduite ? Il est Dieu, le créateur de tout ce que nous voyons, mais également de tout ce que nous ne voyons pas, de ce que nous comprenons et de ce que nous ne comprenons pas. Comprenez tout, vous ? Super, moi non. Hein ? Non plus, hein ? On est pareil. Hein ? Alors, notons au passage que dans l'atelier, Jérémie, il n'a pas ouvert la bouche. Il a fermé la bouche, il ne comprenait rien de ce qu'il voyait. Et c'est alors, vous voyez, c'est alors que la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est quand il a cessé de regimber, c'est quand il a cessé, comme nous quelquefois, eh bien, de dire « Seigneur, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Eh bien que Dieu a dit « Bon, maintenant je peux te parler. Laisse-moi te parler. » Alors soyons humbles quand il nous arrive, par exemple, d'être glorifiés par les autres. Faisons, je dirais, un effort de jeter toutes ces couronnes aux pieds du Seigneur. Parce que notre être, eh bien, doit rester quelque part sans couronne, puisque pour que Dieu puisse, lui, eh bien, nous visiter. Hein ? Ne soyons pas comme le roi Ézéchias, qui, quand il va recevoir la visite des gens venus le voir après une grande, grande délivrance, au lieu de rendre gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à ouvrir ses coffres. Il s'est mis à montrer ses armoires qui étaient pleines de richesses. Il a tout étalé en disant, vous voyez quel personnage je suis. C'est un peu normal que Dieu me réponde. Hein. Vous voyez, mais quelquefois, on est comme ça. Tout est par grâce. Amen. Tout est basé sur l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Eh bien, Dieu étant mécontent de sa conduite, il va lui dire... Eh bien, ta vie va s'arrêter, ton souffle va être coupé. C'est fini pour toi. Que Dieu nous garde de ne pas devenir comme cela. Des victoires, hein, la gloire, le poids lourd, Dieu veut que nous en soyons habités. Dieu veut faire luire sa face sur nos vies. Dieu veut que nous soyons reconnus comme étant des enfants de Dieu. Mais restons petits, évitons que nos chevilles enflent. Amen. Que ça nous fasse mal à la tête. Aïe, ma tête, qu'elle grossisse trop. Vous comprenez ? Soyons et restons petits. Restons à notre place. Que Dieu puisse se servir de nous. Amen. Que nous soyons des vases utiles, propres à toute bonne œuvre. Que sa gloire descende en nous. Que nous soyons ces vases de bénédiction autour de nous. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement, merci de ce que tu as laissé, Seigneur, ces écrits qui sont si importants pour nous. Apprends-nous à décrypter, Seigneur, ce que tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur, à te laisser nous façonner intérieurement, extérieurement. Fais de nous, Seigneur, tout simplement ce que tu désires. Merci de travailler comme le divin potier. Que je sois cette argile, Seigneur, entre tes mains. Et puis, si tu dois tout recommencer, si je dois passer par un échec, par une épreuve difficile, Seigneur, vas-y, vas-y tout simplement. Merci de m'aider, de nous aider, Seigneur, les uns et les autres, à devenir comme tu le veux, comme tu le désires, afin que ta gloire descende sur nous, que ton œuvre se fasse ici-bas, que nous soyons, Seigneur, utiles, tout simplement, pour l'avancement de ton règne. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, et à toi la louange. Amen.